Bon, on y va. Laissez, on rangera après. Alors, donc François nous a fait voyager un peu partout dans l'histoire, dans les théories philosophiques, dans les neurosciences, dans beaucoup de choses. Comme je vous le disais moi-même, après son exposé, je ne savais plus où j'étais. Je ne sais toujours pas tout à fait, mais c'est ce que je recherchais peut-être, évidemment, puisque avec son livre, ça l'annonçait déjà, hein, Lost Ego, donc perdre son l'ego perdu. C'est vraiment ce livre qui m'a donné l'idée, en fait, d'initier ce cycle autour des fondements du leadership libérateur. Parce que, en fait, au départ, quand j'accompagne maintenant des entreprises qui essayent de se transformer de cette façon-là, donc plus de liberté, plus d'autonomie, plus de responsabilité des collaborateurs, etc., eh bien, parfois, j'ai des patrons d'entreprise qui me disent « Oui, mais attends, moi j'ai des gens qui ne veulent pas de la liberté. Ils veulent qu'on leur dise exactement ce qu'il faut faire, etc. » Et quand on lit un peu les psychologues, on a plutôt l'impression inverse, c'est que les gens ont envie d'avoir plus de marge d'autonomie, mais qu'éventuellement, ils ont été conditionnés dans certains climats de travail, dans certaines cultures de travail, à ne justement pas prendre d'autonomie parce que s'ils la prennent, ils se font taper sur la figure. Donc, je me suis dit, ok, là, il y a quelque chose qui pose problème. Et j'étais vraiment intrigué par ce que j'ai découvert au travers de François, non seulement, évidemment, ce qu'il évoquait lorsqu'on en a parlé du gène de la soumission. On a bien vu que c'était beaucoup plus complexe que cela, évidemment. Mais aussi, alors, à travers lui, j'ai découvert indirectement Eric Fromm, donc Escape from Freedom, qui est un livre, à mon avis, très très important pour aujourd'hui, justement, puisque, si je résume de manière très brutale, ce que nous dit Fromm, c'est qu'il peut y avoir une tendance qui fait écho à ce que nous a dit tout à l'heure François, aux gens à être dans un certain conformisme qui permet alors à des régimes totalitaires, autoritaires, à se mettre en place. Et sans vouloir qualifier certains patrons de totalitaires, on a un peu l'impression que dans certaines entreprises, c'est aussi ce climat-là qui est mis en place et qui fait que certains suivent. Donc voilà, pour moi, le fondement de ce cycle de séminaires, il est vraiment autour de cette question. Est-ce que nous voulons vraiment être libres? Et c'est évidemment une question fondamentale pour moi de la poser pour savoir si ce que j'essaye de faire avec Isaac Getz, Frédéric Laloux, etc., a du sens ou pas. Et est-ce que j'ai le droit de penser qu'effectivement, ce sont plus les cultures de travail qui induisent certains à ne plus vouloir prendre d'autonomie, ou est-ce qu'il y aurait une nature, même due à l'évolution, comme l'évoquait tout à l'heure François, qui ferait que certains, ou en tout cas une partie d'entre nous, préféraient un certain conformisme. Voilà, ça c'est vraiment ce qui m'a amené à inviter François. On va parler de tout cela maintenant. Et Albert sera là aussi pour effectivement donner son témoignage, lui plutôt de sociologue. Mais on va bien sûr partir avant tout de vos questions par rapport à cette thématique et par rapport à ce que nous a partagé François. Donc la parole est à vous. Ouais. Thierry.
La question qui vient, c'est est-ce qu'on a nécessairement besoin de libérer l'ensemble des acteurs d'une entreprise, ou bien une partie justement suffit, et on a besoin justement d'une partie libérée, d'une partie conformiste pour pouvoir l'ensemble des avancées.
Vous voulez dire une partie des gens qui seraient libérés, une partie conformiste ou une partie de chacun de nous qui serait libérée, une partie... Non, parce que je suis sérieux, je pense qu'on a... C'est Marx hein, qui a beaucoup travaillé sur l'aliénation par le travail. Une partie du développement est toujours valable aujourd'hui. Quand vous faites quelque chose de très répétitif, qu'il s'agisse de serrer des boulons, aussi je pense au secteur infirmier, je pense à des tas d'endroits où vous êtes dans des interactions parfois compliquées au quotidien avec un métier qui peut être parfois pénible. Et comment vous dire, c'est pas facile de penser la question de la liberté et du conformisme de manière antagoniste. C'est peut-être naïf, mais j'ai l'impression que tout le monde a besoin des deux. Peut-être pas dans les mêmes proportions. Moi, il m'arrive d'avoir du plaisir dans des tâches répétitives. Ça me repose, ça me structure. Et là, c'est classer des factures. Et là, c'est... Mais on y trouve un certain plaisir qui peut libérer du temps. J'ai l'impression que moi, j'arrive pas en tout cas à être créatif, génialement libre en permanence. J'ai des moments où je dois être dans une certaine routine. Mais on est tous différents les uns des autres. Il y a des gens qui sont très à l'aise dans l'initiative permanente. Et il y en a d'autres pour qui le bonheur est une tâche répétitive. Ce que je remarque, et ça me préoccupe, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas la même relation au monde du travail. J'ai fait des boulots répétitifs, notamment adolescent, j'ai fait beaucoup de boulots d'étudiants manuels, assez pour me rendre compte que ce n'était pas mon truc, il fallait que j'investisse dans quelque chose d'intellectuel. Et on a la chance d'être quelques-uns, pouvoir gagner notre vie en parlant, en écrivant, en faisant des trucs de secteur tertiaire. Il y a toute une catégorie de gens pour qui le monde du travail n'est pas un lieu d'épanouissement. Pour qui le monde du travail, c'est un endroit où on arrive à 7h ou 8h du matin, qu'on doit quitter à 16h le plus vite possible, et là, la vie commence. Oui. Il y a une série de témoignages de gens chez qui c'est extrêmement fort. Et il y a des gens chez qui il faut quand même beaucoup d'imagination pour leur dire que serrer des boulons ou nettoyer des toilettes, ça a quelque chose de fondamentalement épanouissant. Donc, rendre le monde du travail un monde épanouissant pour tout le monde, c'est pas facile. Il y aura toujours une proportion pour qui c'est aller au bagne et d'autres pour qui la journée passe vite parce qu'on a des jobs qui sont passionnants. Je ne sais pas si c'est dit exactement au conformisme ou par rapport au fait qu'on est dans un monde qui valorise énormément les compétences de secteur tertiaire, qui sont valorisées par l'époque, parce que savoir philosopher ou conduire pour prendre des compétences qui sont rémunératrices, savoir pousser la chansonnette si on a beaucoup de talent, ou conduire une Formule 1, au Moyen-Âge, ça ne servait à rien. Mais ici, ça vous rend millionnaire. Chaque époque valorise des compétences extrêmement, extrêmement différentes. Et bon, ça nous éloigne de la question, mais je me demande si on n'a pas tous une part liée à un certain plaisir routinier, à une part où on a besoin de créativité. Il faut sans doute chercher à la stimuler chez tout le monde.
Oui. Moi, je pense qu'on est tous le même, entre guillemets. Il y a des moments, c'est-à-dire il y a des moments où on peut chercher du conformisme, des moments où on peut chercher plus de créativité. Le tout, c'est que ça colle avec la situation, avec l'entreprise, etc. Voilà, le tout, c'est d'arriver à faire en sorte que ce moment soit au bon moment pour tout le monde. Et alors, ils se sentent bien globalement, enfin, il y a une espèce d'équilibre. Donc voilà, la part qu'on a chacun entre nous. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui sont plutôt ci, des gens qui sont plutôt ça. Je crois que tout le monde est plutôt ci et plutôt ça, mais dans des contextes et des moments différents.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème de lier, donc j'ai l'impression que tu court-circuites un peu la problématique en liant la liberté et la routine. On peut choisir la routine, parce que ça peut nous plaire à certains moments. Donc, je ne suis pas sûr que réduire le problème de l'autonomie ou de la liberté au travail... C'est équivaut à la question créativité versus routine. Je crois que c'est pas tout à fait le même sur le même plan. Je me trompe peut-être. Hein.
Moi, j'ai une analyse du même phénomène, mais plutôt dans le temps. On avait dans certains types de management des chefs très autoritaires, très paternalistes, très contrôlants, à la rigueur sur aller à la toilette et des choses comme ça. Mais en même temps, dans un monde de papier et dans un monde où rien n'était mesurable, etc. Eh bien, la liberté consistait à gagner son terrain de paperasserie et à faire à sa façon, et c'était incontrôlable. Et les gens qui ont vécu ce management-là et cette époque-là dans des fonctions assez simples et basiques dans l'administration ou dans l'administratif ont cette vision-là de leur liberté. Et puis on passe à un monde où on a des chefs participatifs et qui ont maintenant, et maintenant c'est plus du papier, c'est de l'encodage, et donc tout ça peut être marqué. Et les personnes qui vivent cette transition-là, la vivent très mal, elles estiment que le côté participatif, c'est... Elles vont d'abord comprendre le nouveau management avec le fait que tout est mesurable à travers... Ben maintenant, donc, si on encode, on peut tout mesurer, le temps d'encodage, etc. Enfin, tout ce qu'on veut, le flux, le nombre, etc. Elles vont le vivre comme du flicage. Elles ne vont pas le vivre comme des tâches moins difficiles qu'avant, mais elles vont le vivre comme pousser à l'extrême le contrôle qu'elles ont intériorisé avant, et le côté participatif ou du management comme étant quelque chose de faux et de manipulateur. Et dans le même boulot, au même moment, si j'ai des plus jeunes dans mon équipe, à qui je peux vendre un récit, et ça c'est très clair, sur le sens de ce qu'on fait, et bon, ça a un sens, même si c'est des tâches assez routinières, ça va marcher très bien. Et avec cette nouvelle génération qui n'a aucun problème de stress par rapport à travailler avec de l'informatique, et aucun problème de fait qu'on mesure tout le temps, parce qu'il y a des choses dans cette culture-là, ça donne deux vécus différents. Et donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour les gens qui ont connu l'ancien management, de ne pas être capable de voir tout s'inscrire dans un décor qu'ils ont construit au cours de leur carrière. Et alors, à ce moment-là, tout peut être interprété ou réinterprété. Mais sur la puissance du récit, je suis d'accord. Sur qu'est-ce qui fait une entreprise libérée, je pense aussi, historiquement, les gens se sont construits un décor et vont avoir tendance à tout recadrer dans ce décor-là. Donc déconstruire le décor des gens, c'est très intrusif quand même.
Oui.
Je pense aussi, par exemple, si vous prenez les médecins, un médecin, quand il finit ses études, recevait un beau blanc et faire une prescription est un acte noble. Moi, je travaille dans un hôpital et aujourd'hui, les médecins doivent introduire leur bon d'intervention chirurgicale dans les programmes. Ça vient de l'encodage. Ça vient d'encodage où non seulement ils sont moins bons que les plus jeunes, mais en plus, s'ils oublient quelque chose, c'est leur responsabilité médicale. Et il ne faut pas obliger de mettre côté gauche, côté droit. Enfin, je pense que tout ça fait que tout d'un coup, ce n'est pas l'informatique qu'ils vont rejeter, c'est le fait de perdre la beauté de la prescription pour être de mauvais encodeurs, parce qu'en plus, c'est pas leur. L'encodage est quelque chose qui demande un peu un certain type de précision qui n'est pas le genre de truc qui est en vie. Et donc, dans une époque où on est Toyota, Lean et tout ça, toutes ces procédures qui tendent à la qualité totale, c'est quand même, si on ne crée pas un espace de liberté ailleurs, la qualité totale, c'est très, très contraignant dans la liberté, quel que soit le style de management.
Albert, n'hésite pas à dire quand tu, tu veux. Ne te sens pas obligé.
Non mais alors voilà. Bon, du coup, je me sens obligé, sinon je serais resté tranquille. Mais donc bon, tu as bien fait de rappeler que je suis sociologue. Alors les sociologues, ils ont cette fâcheuse tendance à ramener beaucoup de phénomènes sociaux à ce qu'on appelle vulgairement du pouvoir. Et je pense que la question de la soumission, si on l'envisageait en sens inverse, c'est-à-dire si on ne se posait pas la question de savoir est-ce que les gens veulent être libres, mais pourquoi il y a des gens qui veulent beaucoup plus de pouvoir que d'autres, ça serait une porte d'entrée peut-être plus intéressante pour savoir pourquoi les gens obéissent. Voilà. Et c'est exactement, enfin, c'est cette remarque sur le travail à l'hôpital qui me fait penser à ça. Il se trouve que j'ai beaucoup analysé... les phénomènes de quantification, et en particulier les phénomènes de quantification à l'hôpital et sur l'acte médical. Et ce n'est pas une affaire très simple de dire à un médecin tu n'es plus un artiste, tu ne sauves plus des vies, mais tu rapportes tant à l'hôpital. Donc ce n'est pas simplement la question du flicage, ça, tout le monde a très très vite compris de quoi il est question avec la quantification. Mais moi, je veux bien que il y a des défenseurs de ça, que les médecins deviennent des techniciens de surface, hein, un peu échangeables à merci. Ça, c'est pas très important de savoir qu'est-ce qu'il sait faire du moment qu'il rentre dans le protocole. Mais il faut quand même voir ce qu'on perd. qu'est-ce que les gens perdent quand ils deviennent des machines à produire? Il y a quand même une perte pour l'humain, pour nous tous en général, je crois. Et on ne peut pas le gommer comme ça en disant il y a une jeune génération. Après, la question de la jeune génération, est-ce que c'est parce qu'elle s'en fout complètement de ce qu'elle fait? Ou parce qu'elle est plus informatisée? Il faut poser la question bientôt, plus tard, de savoir quel rapport ces gens entretiennent. Enfin, là aussi, il y a la question du pouvoir, elle est importante, puisque ça dépend toujours à quel niveau d'une hiérarchie on se trouve. Alors, je ne sais pas si la hiérarchie, elle est dans le cerveau. En tout cas, socialement, elle est bien inscrite. Hein. Donc voilà, comme on dit, les différences entre les personnes, elles ne sont pas très très graves. Ce qui est grave, c'est la manière de les hiérarchiser et de les stabiliser dans une hiérarchie où on va dire les uns sont les premiers de cordée et les autres, ben, ils n'ont qu'à suivre ou mourir. Bon, là, il y a des questions qui sont assez importantes. Donc je pense qu'on ne commence pas encore très très bien à voir, à mesurer ce que c'est. Parce que sur votre question, si je me mets du point de vue des entreprises très très performantes aujourd'hui, donc plus les entreprises à main d'œuvre abondante qui font des tâches quotidiennes, mais si on dit qu'aujourd'hui on est devenu très intelligent, il faut ouvrir une parenthèse, évidemment, tant qu'on a envoyé le travail routinier et assez sale en Chine ou en Afrique, on n'a pas le problème, mais bon, donc on va... Je commence à m'énerver. Mais dans les entreprises modernes, on dit que tout le monde doit être très très intelligent. Je ne vois pas comment on peut dire que des gens, on a besoin de gens très très forts et d'autres qui sont des routiniers, puisqu'on demande à tous de faire un effort collectif vers la coproduction ou la production d'intelligence au travail. Donc cette distinction entre des gens, oui, je vois bien parce que ce qui rentre derrière, ce qui rentre quand même, c'est rendre une entreprise libérée, c'est quand même détruire le pouvoir de certains sur d'autres. C'est quand même ça la question. Ouais. Et c'est pas si simple pour les gens qui ont du pouvoir de se décharger de leur pouvoir. Alors, je sais pas si c'est très simple pour quelqu'un de se soumettre ou d'obéir, mais en tout cas, je suis sûr que quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, en céder un peu, c'est beaucoup.
Oui, tout à fait. Mais c'est pas détruire son pouvoir. C'est juste l'amener à prendre conscience que s'il partage son pouvoir, à travers une nouvelle forme de gouvernance, il y aura beaucoup plus d'innovation et de créativité. N'oublions pas, je voudrais moi relier le niveau de liberté avec le niveau de conscience, en fait. Qu'est-ce qui fait que de moins en moins de gens dans les entreprises adoptent une forme de conformisme imbécile? Et tout simplement parce qu'ils sont de mieux en mieux informés, de plus en plus crédibles, de plus en plus conscients, je pense. Et donc, ils sont de plus en plus invités à occuper leur place, toute leur place et rien que leur place. Donc, je pense que, voilà, enfin, moi, je voudrais... Ça me travaille tout ça.
Oui, mais quand même, je m'excuse de... Après, je me tais. La question de la conscience telle que vous la posez, oui. Elle dépend exactement de la... Enfin, c'est un terme que j'ai beaucoup travaillé, j'aime pas l'employer, de la confiance qu'on vous fait. C'est-à-dire, si on vous laisse une grande marge d'autonomie, alors votre conscience, comme vous dites, mais moi j'appelle ça plutôt l'autonomie qu'on a au travail, hein, le fait que même si je fais une erreur, je ne vais pas être sanctionné, par exemple. Si on reconnaît que le fait que je fasse une erreur au travail soit valorisé, par exemple, essayez d'y penser un peu, c'est compliqué. Si on ne valorise pas mon erreur, si je n'ai pas un droit à l'erreur, alors ma conscience, que vous appelez à ma conscience, mais c'est plutôt mon autonomie au travail, va être limitée. Donc au lieu du terme conscience, je préfère le mot autonomie. Parce que c'est de la même manière, c'est-à-dire on ramène à des questions de rapport entre les personnes, parce qu'au fond c'est comme ça, on n'est pas des machines, il y a des personnes qui se trouvent dans des hiérarchies, et la question de la hiérarchie, elle va dépendre de ce que vous appelez la conscience. Est-ce que je suis conscient de faire partie de quelque chose? Et bien ça se démontre, c'est comme l'amour, hein. C'est pas, y a pas des preuves de l'autonomie, enfin il n'y a pas une autonomie en général abstraite, il y a des preuves de l'autonomie. Et une des bonnes... Comment dire, une des bonnes preuves, c'est le fait que si je fais une erreur, je ne suis pas sanctionné, par exemple. Mais quel chef ou quel chef admettrait, ou quelle entreprise en général, ou quel monde en général admettrait le droit à l'erreur dans une entreprise? Évidemment, je ne parle pas d'une erreur qui serait catastrophique, mais d'une erreur que chacun peut être amené à avoir dans une initiative. Hein, c'est-à-dire, parce que toute la question, c'est est-ce que les gens ont de l'initiative? Si on vous bloque l'initiative parce que vous avez trop peur de la sanction, ben, pourquoi vous seriez dans l'initiative? Vous attendez.
Oui. Et tout ça, enfin, je pense que c'est très important. Et en même temps, pour reprendre ton expression tout à l'heure, François, ça, on va l'aborder dans d'autres séminaires. Parce qu'il est clair, je crois, pour tout le monde ici, que tout ce qu'on appelle entreprise libérée ou opale, ça commence par une transformation personnelle du management qui, effectivement, remet en cause son pouvoir sur les autres. Ça, je pense que, voilà, on peut être d'accord ou pas d'accord, certains ne veulent pas rentrer là-dedans, mais si on va dans cette direction-là, je pense que ça, c'est un donné fondamental. Donc, il y a ce présupposé que le management se remet vraiment en cause pour justement permettre aux collaborateurs de prendre leur autonomie, comme tu le dis, de leur montrer qu'on a confiance en eux, qu'ils ont le droit à l'erreur, etc. Et je pense que, par rapport à ta question, il y a aussi... Il ne faut pas mélanger trop les choses, parce que sinon, on va faire une grosse bouillabaisse. C'est sûr qu'il y a aujourd'hui des transformations dans le monde du travail, notamment à cause de l'évolution technologique, qui en fait va à l'encontre de cette autonomie, hein, via tous les mécanismes de suivi automatique, de la performance, des indicateurs, etc. Mais l'idée dans les entreprises libérées ou opales à nouveau, c'est aussi d'aller contre cela. Un exemple typique, c'est celui de Buurtzorg, hein, où, les, je ne sais pas si tu connais Albert, Buurtzorg aux Pays-Bas, bon, justement, c'était dans le milieu, entre guillemets, infirmier. Plutôt que de dire aux infirmiers, vous avez 2 minutes pour faire telle injection, etc., on leur dit, vous faites ce que vous voulez. L'important, c'est que vous soignez bien le patient. Et ça mène des résultats tout à fait incroyables, parce qu'ils passent peut-être beaucoup plus de temps avec les patients, mais ces patients récupèrent ou sortent de leur maladie beaucoup plus vite. Et donc, au total, c'est gagnant pour tout le monde. Donc, c'est vraiment dans cette logique qu'on est. Et la question qu'on essaye de se poser aujourd'hui, c'est de se dire, OK, si véritablement on fait l'hypothèse que le management veut aller authentiquement dans cette direction-là, est-ce que malgré tout, il y a des gens qui peuvent dire, non, on n'en veut pas, parce qu'on préfère quand même que vous nous disiez ce qu'on doit faire. Et la question alors est de se poser, bah, est-ce que c'est parce qu'ils sont naturellement comme ça, entre guillemets, ou parce qu'en gros, ils ont été tellement conditionnés par leur passé dans un système hiérarchique qu'ils n'arrivent pas à en sortir. Et voilà, ça c'est vraiment le fondement de la question, je pense.
Il y a ce sujet-là, il y a des entreprises libérées qui se sont délibérées.
Alors,
ouais. ça fait référence un peu au que tu disais tout à l'heure, on a nazifié l'Allemagne, on l'a dénazifié aussi vite.
Oui.
Et les entreprises libérées, il y en a qui sont bien développées, je pense qu'on a Harley Davidson, ils avaient fait un super truc. Oui. Et puis, hop, ça repart en arrière. Et quand on dit ça repart en arrière, moi j'ai jamais eu de témoignage des équipes, des gens qui ont vécu, pas les patrons, parce qu'on dit les patrons, hop, on fait la prévention, on en met un autre, celui-là il remet le.
Qu'est-ce qu'on appelle
un shit en route. On ne parle pas des gens dans l'équipe. Okay. Je ne sais pas.
Alors, je peux en dire un mot pour clarifier que vous réagissiez, parce que c'est vraiment tout à fait la question qu'on peut se poser. Poult, par exemple. Poult, deuxième biscuiterie de France, à Façon. Ils sont depuis 15 ans dans cette libération. Ils sont repris par un fonds d'investissement. Qui croit avoir trouvé la poule aux œufs d'or, puisque effectivement, grâce à cette libération, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont avec une croissance très importante et tout se passe très bien. Mais en gros, ils ont une croissance du genre 15% EBITDA chaque année. Mais le nouveau fonds d'investissement dit, ben non, il faut que vous fassiez du 18%. Et le patron qui gère la boîte, qui l'a libérée, entre guillemets, depuis 15 ans, ça, c'est juste pas possible. Parce que pour passer de 15 à 18, il va falloir qu'on ferme telle usine, par exemple, et ça va créer ça va casser toute la dynamique. Et le nouveau fonds d'investissement dit, nous, vos histoires de libération, on n'a rien à foutre. On veut du 18, donc tu vas fermer l'usine, telle usine. Et dit non, donc lui, il sort. Son second qui se dit bon, je vais arriver peut-être à les amadouer, à leur faire comprendre que vouloir du 18 alors qu'on fait du 15 dans les conditions qu'on a, c'est quand même super, donc ne cassons pas justement le jouet. Il se fait débarquer quelques mois plus tard. Le jour, enfin, et donc c'est Mehdi Berada, là, le deuxième, d'abord c'était Carlos Verkeren, puis Mehdi Berada. Mehdi, qui est un ami, me dit le jour même où je me suis fait débarquer, dans l'équipe RH, qui pourtant était totalement acquise à l'idée de libération, avant même que je ne sois sorti, ils avaient déjà réécrit les organigrammes qu'ils allaient présenter au nouveau directeur. Donc ça fait totalement écho à ce que tu disais sur la dénazification ou la nazification. C'est bien que les gens aient goûté à cette liberté et vraiment en aient profité dans le bon sens du terme, quand ils ont senti que le pouvoir rebasculait, je veux dire, de l'autre côté, eh ben, pour la plupart, ils n'ont pas opposé de résistance. Enfin, en tout cas, de résistance.
Ils veulent garder leur job. Ils ont... Les deux patrons
sont peur.
Oui, mais c'est ça.
La peur est là.
Ouais, donc c'est
mais il y a ça, je pense. Il y a aussi cette capacité d'adaptation.
Oui. Ou de conformisme.
Vouloir garder son job. Il y a aussi le côté, justement, de ne pas vouloir rentrer en guerre nécessairement, et avec le coût que ça représente. Donc, de ne pas vouloir défendre un acquis. Et on retombe dans le fascisme, on retombe dans la Russie.
Et que, comment justement, par rapport à tout ce que tu nous as dit, toi, François, toi, tu vois ou tu expliques ce type de situation. Et toi aussi, Albert.
Parce que vous appelez une entreprise libérée.
Oui.
Vous êtes sûr?
Oui.
Oui, bon, j'ai l'impression qu'on a pris une entreprise en otage. Et puis, okay. Donc, c'est une entreprise où on a mis des mécanismes en œuvre pour que la liberté, quoi, des employés à définir le cadre de leur travail et soit un peu plus large. Mais cette liberté, par définition, elle n'est pas totale. Elle est cadrée. Il y a bien quelqu'un qui est ministre des...
Non, pas nécessairement. C'est simplement, si tu veux, l'intérêt collectif que représente l'organisation qui doit être un minimum respecté, sinon on n'en sort pas. Mais il n'y a plus nécessairement une personne au-dessus des autres qui décide ni de ce que doit être cet intérêt collectif, ni comment il faut le servir. Et ça dépend évidemment du degré de maturation de la...
Comment il faut le servir, je peux comprendre, mais de ce qu'il doit être, ça, il n'y a personne qui...
Non, tu peux aussi...
Ça, c'est l'illusion du jeu.
Oui. Moi, en débarquant...
Même l'entreprise a son illusion du jeu.
En débarquant chez Myria, alors, on est dans le secteur public, mais, comment dire, public d'un peu avant-garde de gens idéalistes, qui sont contents d'être dans du public autonome, qui n'a pas d'ordre à recevoir du gouvernement, et qui doivent trouver le bon ton entre... on est à mi-chemin, si vous voulez, entre les ONG et les autorités, et donc c'est quand même un rôle particulier. Et je me suis rendu compte, parce que moi, mon expérience de management précédente était celle d'une ASBL privée, mais du coup avec un objet social extrêmement clair et ses propres intérêts. Moi, je me suis rendu compte que le plus gros du boulot était de définir le cadre, parce que le champ des possibles, le champ est a priori libre. Le champ, notre mandat, c'est les droits fondamentaux des étrangers, et lutter contre la traite et le trafic des êtres humains. Donc c'est à nous de définir notre cadre. Et j'ai ressenti que j'avais affaire à des tas de gens qui se sentaient extrêmement libres et qui voulaient garder une partie de ces libertés, mais qu'ils m'étaient demandé de trouver des contraintes intelligentes et de limiter... la liberté, la part de liberté des autres. Mais tacitement, c'était clair, la part de liberté qu'il fallait que j'aide à dessiner les cadres. Et j'ai vite compris qu'en fait, alors que je m'attendais à ce que ce soit plus simple et à faire de la libération, justement, je me suis rendu compte que mon job était de mettre des cadres, mais que c'était demandé. Que la liberté et le cadre permettaient de ne pas s'évaporer dans toutes les directions. Mais ça, c'est vraiment un environnement... très particulier, où du coup on a fixé des priorités, où on fait le suivi, où je crois que pour l'instant on a un équilibre où les employés font un avec l'objet social de notre entreprise, même si techniquement ça n'en est pas une, et ont une combinaison de contraintes et de libertés qui les conviennent. Et ce qui nous solidarise aussi, c'est qu'on est aussi attaqué par l'extérieur, Théo Frankel, etc. Ça nous fait un environnement, on a l'impression d'être... On sort fort parce qu'on a l'impression d'être comme des scouts au milieu du bois. Et donc, moi, j'ai donc, peut-être dans un milieu très atypique, j'ai l'expérience inverse de gens qui sont demandeurs et aide-nous à nous limiter. Parce qu'on est en train de s'éparpiller. Quand on fait une publication, on fait trois fois trop. Du coup, on n'arrive pas à être... Et c'est vrai qu'on a du coup presque un problème structurel. Là, demain, on sort une publication sur... Enfin, je ne vais pas passer les détails, mais sur... Un truc qui attaque le gouvernement sur ses politiques d'intégration. Et c'est toujours pareil. Chaque fois qu'on sort une publication, on se retrouve encore jusqu'à la dernière minute à modifier. Ça devrait être fait depuis une semaine. Mais il y a un tel souci du perfectionnisme, il y a un souci de perfectionnisme et de l'exhaustivité que j'arrive pas à cadrer complètement. Et que j'arrive pas à empêcher complètement de se manifester, parce que je ne trouve pas la bonne manière de leur faire comprendre qu'il y a un impératif d'intérêt qui demande, puisqu'on doit sortir le même texte en français et néerlandais, anglais, à avoir fini une semaine avant l'échéance. Je réponds sans doute absolument pas à ta question.
Je peux le faire. Certains qui sont actifs dans ce type de dynamique peuvent réagir.
Ouais. Alors, moi, je n'ai pas d'expérience de faire, donc je pourrais m'inventer une expérience de manager. Mais il y a quand même une chose que les philosophes et les sociologues partagent, c'est. Alors, pas quand ils sont dans des activités publiques, mais quand ils sont. Quand ils sont détachés du monde, c'est de faire attention aux mots qu'ils emploient. Et donc on essaye d'être attentif. Et moi, je, vraiment depuis le début de cette soirée, le mot conformisme est gênant. Parce que, en fait, dans ce cas-là, on prend le cas de cette entreprise. Est-ce que c'est du conformisme ou c'est simplement... on sait toujours dans un management, enfin dans une entreprise et dans une direction. Alors... François a essayé de le montrer, il y a comme une variété des tempéraments humains, et donc on n'est pas quand même tous égaux en tempérament. Mm-hmm. Et donc il est humainement pas impossible que ce que tu racontes arrive. Mm-hmm. Bon, il y a bien des gens qui disent tant que j'ai la liberté, bon c'est bien, à un moment on met un choix devant la personne, on dit voilà, soit tu continues à être libre, mets-toi à la porte et tu ne pourras plus trouver d'emploi, soit tu te coules à ce que je te dis. Bon. Mm-hmm. Alors, je voudrais juste faire remarquer que passer de 18% à 15% de rentabilité, ce n'est pas la même chose que de ne pas emmerder Théo Franquet. Alors, il y a des difficultés, je conçois tout à fait.
Mais, moi, je préfère l'opposition à ceux qui ont
passé. Mais la violence d'une chose comme ça, et surtout son irrationalité. Je sors de la lecture du livre de Yanis Varoufakis sur comment la Grèce a été coulée par l'Eurogroupe. Le degré, disons, comment on va appeler ça, pour lui, d'irrationalité des gens qui dirigent l'euro devant le traitement de ce cas grec était totalement patent. Et c'est très impressionnant de voir comment ils les mettaient en porte-à-faux avec leur irrationalité et le fait qu'ils étaient armés pour dire ce que tu nous dis n'est pas vrai. Et derrière, une fois que c'était hors de la réunion, de lui dire tu as tout à fait raison. Mais on ne te le dira jamais en face. Bon. Donc ça, il y a là des rapports de force, de pouvoir, qui n'appellent pas le conformisme en fait. Il faudra avoir une définition du conformisme qui sorte, comme je parlais tout à l'heure, de la confiance. Quand quelqu'un décide de faire quelque chose avec un revolver sur la tempe, il est impossible d'utiliser le terme confiance. C'est tout. C'est comme ça. Conceptuellement, c'est impossible. Et conformisme, voilà, je pense qu'il y a des choses. Il y a la peur. La peur est un facteur énorme. Alors je m'excuse pour les questions contextuelles et historiques, mais par chance, il est arrivé peu de fois où un régime comme le régime nazi existe sur Terre. Mais je vous mets au défi, chacun d'entre vous, de savoir ce que vous auriez fait en régime nazi. Alors, est-ce que c'est de la soumission, de la peur, tout ça devait rentrer en... On peut faire plein de choses en n'étant pas d'accord avec ce qu'on fait. C'est aussi une capacité humaine. Je ne sais pas où elle se loge dans le cerveau. Mais voilà, ça existe de faire une chose avec laquelle on n'est pas du tout d'accord. Voilà, c'est une possibilité humaine. Et qui, dans certains cas, bon, alors il y a les témoignages des gens qui tuaient, mais il y a les gens qui étaient dans les camps et qui enterraient leurs parents. Mettez-vous dans la peau d'un enfant qui enterre son père et qui après survit. C'est des cas. Donc les mots, les situations, c'est pour ça. Je voulais faire une petite remarque sur ce que François a fait. Je trouve, enfin, à titre personnel, je trouve que c'est très très compliqué de ne pas contextualiser les choses. Par exemple, la notion, pour reprendre ce qui a été exposé, la notion de libre arbitre, la faire circuler comme si elle n'avait jamais changé, d'Héraclite à Damasio, c'est étonnant, parce qu'aucun contexte ne correspond. Il n'y a aucun moment où même l'idée de libre arbitre qui a évolué, qui devient la volonté, qui devient le choix, qui devient les préférences, qui devient l'activité du cerveau, on ne peut pas nommer ça de la même manière parce que l'ensemble des conditions qui définissent le phénomène a changé. Et donc, voilà, moi, je suis toujours un peu embarrassé qu'on maintienne de façon linéaire et sur une très, très longue période des choses où chaque contexte a totalement modifié les conditions dans lesquelles on conceptualise ça. Donc, voilà, pour le mot conformisme, il faudrait voir, je pense, serrer des boulons, ce n'est pas du conformisme.
Non. Et par rapport à ce que tu as dit, François, ce qui est important, à mon avis, de clarifier, c'est que c'est pas tant le fait que un groupe ait besoin de limites, c'est comment ces limites sont définies par un groupe ou par quelqu'un qui se présente comme étant celui qui sait mieux que le groupe. Et toute la dynamique des entreprises libérées ou opales, c'est de dire bah, on va arrêter de faire semblant qu'il y en a un qui sait mieux que les autres, et on va mettre en place les mécanismes qui font que ce soit l'ensemble du groupe qui puisse décider de cela. Alors, c'est pas toujours évident parce que ça demande aussi une certaine maturité organisationnelle pour pouvoir le faire. Et c'est parfois plus facile pour certains de dire bah, en gros, ils sont pas capables, donc c'est moi qui vais décider. Mais amener les gens à précisément se sentir suffisamment à l'aise que pour participer à la décision et mettre leur avis, etc., là, c'est en ce sens-là qu'on libère. Ça ne veut pas dire que le groupe ne va pas se donner justement des limites, parce qu'on en a besoin.
Ça marche, je suppose, alors avec des processus,
oui.
Avec
oui.
Une manière de faire pour que les gens puissent se sentir... la parole, d'exprimer les variables dont il n'avait pas semblé d'éluder à ce point les contextes. Mais soit, c'est peut-être la rapidité
non, c'est,
du voyage que j'ai
c'est complètement la rapidité.
C'est pas seulement des processus. Hein. C'est aussi des principes qu'on essaye de faire vivre et qu'on essaye de traduire par des actes au quotidien. Qui ne sont pas simplement des processus, sinon ce serait trop facile. Par exemple, qu'au départ, il y a cette transformation personnelle du leader ou du manager, sans quoi, je veux dire, les processus, comme tu dis, on pourrait les faire venir de l'extérieur, les plaquer sur un truc, et on verrait que ça ne marche pas.
Alors, je crois que, enfin, j'ai vraiment l'intuition de ce que j'ai entendu ce soir, que l'élément de réponse clé dans ta question, c'est la différence entre l'individu et le groupe. La soirée était présentée aussi comme une dissertation sur le combat entre la sécurité et la liberté. Ce que je retiens aussi dans la présentation, c'est l'expérience justement de la mise en groupe et la confiance qu'on a besoin du groupe pour pouvoir oser s'exprimer. Et donc, si on voit la sécurité, ce combat entre la sécurité à un niveau individuel et la liberté au niveau d'un groupe, là, l'aspect passé de l'individu au groupe, à mon avis, doit être un élément clé dans la réponse. Ok, le management a changé, mais comment l'ensemble va changer? Et là, peut-être que l'avis sociologique peut être intéressant. Je ne sais pas. Mais justement, cette philosophie des masses, et de qu'est-ce qui fait bouger un groupe, ou au contraire, le fait reculer et revenir en arrière. Et ce momentum, là, voilà, on parlait du timing, mais qui fait que on peut faire de sorte qu'un momentum soit là.
Ouais. Il y a deux réflexions qui me viennent en écho à ça, qui ont traversé toute la conférence précédente. C'est que les deux notions qui reviennent toujours de conformisme, mais puis alors cette notion d'évolution qui est venue, que tu as amenée, hein, et qu'un élément qui m'a frappé dans le parcours. Et on peut le prendre aussi à partir du moment où on admet, et ce principe a de la force, et tu as passé pas mal de temps à le démontrer, que le conformisme va rester une tendance naturelle, humaine. C'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure en disant ben voilà, si on a à nouveau un régime nazi demain, on risque beaucoup d'entre nous de tomber dedans. Ok, le conformisme va rester une tendance naturelle majeure. Maintenant, on sait qu'on peut se voir dans une vision évolutionniste. Donc, le fait de finalement fixer des normes différentes, donc de recadrer le conformisme de façon différente et de prendre un conformisme et un cadre normatif qui soit beaucoup plus libérateur, passer par ce cadre libérateur, peut alors faire avancer dans une vision d'évolution sur voilà, la génération de gens qui, parce qu'ils s'adaptent à des nouvelles normes, parce qu'ils s'adaptent à un nouvel environnement, sont amenés à prendre une position libératrice pour eux-mêmes.
Il faut que ça devienne la norme.
Il faut que ça devienne la norme.
Ou en tout cas, là où on le fait, il faut avoir conscience. Je pense que cette notion de conformisme est vraiment, vraiment extrêmement, extrêmement forte. Parce que ça veut dire que là où tu le fais, en tout cas, il ne faut pas forcément que ça devienne la norme, mais là où tu le fais, il faut que tu comprennes que les gens vont se cadrer en fonction de cette nouvelle norme que tu proposes.
mais ce que tu dis fait écho alors à la théorie des créatifs culturels qui disent qu'à partir d'un certain nombre de... un certain pourcentage de la population qui est dans la nouvelle dynamique, je crois qu'ils établissent ça à 25%, alors ça va très vite pour que tout bascule, et ça pourrait être une illustration d'un nouveau conformisme qui se met en place alors. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu...
Là, il faudrait faire tout un lexique des termes qu'on peut attacher à conformisme. Alors, en écoutant, on voit bien que le conformisme, c'est soit l'obéissance aveugle, mais là par exemple, et dans le cas des entreprises, mais dans le cas d'autres choses, l'ensemble des phénomènes de déviance, la question, c'est la question de l'innovation. C'est-à-dire, quand les gens sont trop conformistes, il n'y a pas d'innovation. Donc, il y a déjà le premier couple, conformisme-innovation, qu'il faut voir. Alors, il y a celui conformisme-obéissance. Enfin, il y a toutes sortes de couples qu'il faut faire rentrer. Mais on voit bien que si on pense conformisme par rapport à initiative, à innovation, on est bien embarrassé si on veut qu'il y ait l'innovation. C'est-à-dire qu'on est obligé de combattre le conformisme et pas de s'en accommoder.
Et aussi, on parle ici de conformisme-soumission. Mais il y a aussi pour moi un conformisme qui est lié au pouvoir, la pensée unique, tout ce conformisme des managers, des dirigeants qui ne le font pas par peur, je ne pense pas, mais par goût du pouvoir. Ils se conforment à une norme ou à ce qui a été dicté parce que c'est une clé de pouvoir, je pense.
Mais c'est comme ça qu'on les a éduqués aussi.
C'est comme ça qu'ils ont été sélectionnés peut-être aussi.
Oui. Il y a beaucoup de choses aussi qui ont été réunies. On a les affects psychologiques et les affects sociologiques. On les a vus. Si le conformisme gagne la routine parce qu'on rentre dans un moule, ça devient du conformisme parce qu'on a quelque chose qui est régulé permanent. Mais à partir du moment où on donne de l'autonomie, on permet aux gens à ce moment-là de pouvoir faire de l'innovation, de pouvoir faire des choses différentes. Mais le sentiment de liberté, c'est encore autre chose. La liberté est au-dessus de l'autonomie. Et dans une entreprise, celui qui a la liberté, c'est celui qui est le leader, puisqu'il emmène l'entreprise vers un avenir par la vision. Son comité de manager, parce que souvent, ce n'est pas un manager, un vrai leader n'est pas un manager, c'est un mauvais manager, souvent. Le manager, lui, va amener de l'autonomie dans le principe de l'entreprise libérée et va pouvoir déléguer des parties de responsabilité. Tout comme le leader va libérer des parties de responsabilité à des comités de managers. Ça, c'est un des aspects. À côté de ça, on a un autre phénomène qui va jouer, qui fait que les gens ont un modèle socio-éducatif. Lorsqu'on est né dans une famille où il n'y a pas d'harmonie, où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas de sentiment de s'exprimer, ils ne vont pas s'exprimer. Ils vont être routiniers et délivrer des processus qui vont être régulés jusqu'à arriver en entreprise. D'autres phénomènes vont peut-être casser ça. C'est la rencontre de personnes, c'est des changements, comme on dit. Et donc, changer pour réussir est nécessaire à ce moment-là. Ce qui va se passer aussi, c'est que vous avez dans des entreprises des gens qui ne veulent pas prendre d'autonomie. Même si on leur enseigne, ils vont vouloir rester dans ce modèle. Et lorsqu'un repreneur arrive, il va reprendre le modèle d'autonomie plus la liberté de celui qui a créé cette autonomie, c'est-à-dire le leader. C'est très difficile. Je pense que l'entreprise libérée va fonctionner très bien dans les PME. Alors, voir jusqu'où on définit la taille de PME. En Belgique, une PME, c'est moins de 100 personnes. En France, c'est moins de 500. Donc, on n'est pas dans les mêmes normes. Mais tant qu'elle n'est pas reprise par des shareholders ou par des capital market acquisiteurs ou autres, elle peut continuer son modèle de liberté et d'autonomie. Parce que bien souvent, un repreneur aura difficile à vouloir récupérer le modèle d'autonomie et la liberté qui est au-dessus. Pourquoi ? Parce que simplement, ce n'est pas lui qui l'a décidé. Il veut faire ce qu'il a décidé. Et les repreneurs, ce qu'ils veulent, c'est voir des chiffres en boni, des actionnaires heureux. Donc, ça va encore prendre du temps. Mais on évolue aujourd'hui. Pourcentage par pourcentage, si on a un millième d'entreprises qui deviennent libérées, c'est déjà quelque chose par rapport à il y a 10 ou 20 ans. L'Espagnol qui a créé ça il y a une dizaine d'années, le Mexicain, pardon, a été le premier à faire une entreprise libérée.
Brésilien, peut-être.
C'est un Brésilien,
c'est
excuse-moi.
C'est
Oui, c'est juste.
C'est pas le premier.
Excuse-moi, Je sais pas, j'avais le Mexique en tête. Et donc, si on a 1% dans 10 ans, mais c'est énorme, mais avant d'arriver à 50%, il faudra revoir le principe des sociétés multinationales. Et celles-là, avant qu'elles se libèrent, ça va être très, très, très difficile. Je crois qu'on ne le vivra pas. Je suis un réaliste. Tout ce qu'on va pouvoir gagner est gagné.
J'ai pas de... Stéphane, tu peux pas envie de dire quelque chose? Toi qui est en plein dedans, je te vois ruminer là, dis-nous ce que...
Non,
mais...
non, moi, la compagne de PME, je partage un peu ce que monsieur dit. Quand on a un patron, d'abord parce que c'est le patron qui décide de changer.
Oui, ça c'est clair. Ça,
c'est le patron qui prend son téléphone et qui dit « moi, je voudrais bien être accompagné pour faire une transition organisationnelle ». Très souvent, quand on débarque, ben, on voit que le patron, il dit « moi, je veux me libérer parce qu'il lui est arrivé X, Y, Z choses dans sa vie qui a fait que ben, son front est tombé ». Après, il faut convaincre, il faut accompagner tout le reste. Mais quand c'est le patron d'une petite PME et qu'il a pas d'actionnaires, qui sont des entreprises, des capitaux, etc., je pense qu'il y a plus de capacité à faire perdurer le système. Chez Poule, c'était un peu cousu de fil blanc. Ouais, ouais. Nous, on accompagne actuellement une organisation qui va probablement se faire reprendre. Et c'est tout le... C'est toute la difficulté, c'est comment bâtir une gouvernance coopérative, mais surtout faire en sorte qu'elle perdure au-delà, parce qu'elle ne peut pas être achetée par ses actionnaires, par les employés, alors que le patron aurait bien voulu, et en faire une coopérative. Et donc, on se demande ce qui va se passer. Et ça pourrait anéantir tout le travail qu'on a fait. Mais donc, je partage vraiment ça. Par contre, ce que j'observe à travers les accompagnements, c'est que la notion de cadre, elle est là systématiquement. On accompagne différents types d'organisations. Des organisations qui sont assez conformistes dans le modèle de la Loue, donc bleues, paternalistes, etc., qui veulent sortir et se libérer davantage. Eh bien, il n'y a rien à faire. Le cadre existe, mais ce qu'on fait, c'est recréer un autre cadre dans lequel les gens auront créé, auront co-créé, et qui leur sert davantage. Il y a des organisations qui sont plus dans le modèle verte, plus type ONG pluraliste, où là, on a type développement, boîte de développement informatique, où là, on a explosé tous les cadres parce qu'on est face à des jeunes qui ont refus de cadre, puis ils se rendent compte qu'à un moment donné, en fait, pour être libre, j'ai besoin de cadre. Et donc, ces deux types d'entreprises différentes, très conformistes à la base, paternalistes, très libérées, virant vers l'opale, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est cette notion de cadre. Et de ne pas créer des petits cadres, mais de créer un grand cadre dans lequel les gens peuvent y trouver leur compte, et puis surtout sentir qu'ils ont co-créé. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que, selon moi, et je pense qu'Emmanuel partage fortement ce que je dis, ça prend du temps, en fait. Et donc, il n'y a pas... je pense qu'il ne faut pas chercher à libérer totalement toute la boîte. En fait, en permaculture, il y a un des principes qu'on utilise, c'est qu'il ne faut pas utiliser les bonnes choses pour tout. Donc, il ne faut pas toujours utiliser les mêmes principes partout. Donc, ce qui fonctionne dans une partie de la boîte, au niveau du comité de direction par exemple, ou au niveau de la moitié de la boîte, peut ne pas fonctionner dans une autre partie de la boîte. Et c'est très bien en fait, la diversité, ça fait partie quand même de la stabilité de la nature. Et donc, moi je n'ai jamais voulu, en accompagnant, avoir des choses parfaites, mais peut-être disparates. Mais là où ce qui est important, c'est qu'effectivement les gens puissent se sentir ok, quoi, contribuer. Si j'ai pas envie de me libérer, bah, très bien. Mais par contre, il y a des modèles de structure et il y a des dynamiques de groupe qui permettent à ce qu'une personne qui ait envie d'être libérée et se libère, puis une personne qui a envie d'être moins libérée, qui a besoin de plus de cadre, puisse y trouver son compte aussi. Voilà, c'est. Moi,
sur 10 ans d'expérience, voilà ce que j'observe dans les boîtes.
Peut-être par rapport à cette question de savoir, bon, est-ce que c'est pour les PME ou pour les grands groupes, quand même quelques observations. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises libérées locales sont plutôt de petite taille, mais il y a quand même des grands groupes qui s'y essayent. Michelin a certaines entités qui sont vraiment très avancées là-dedans, sous l'impulsion de Bertrand Ballarin, qui interviendra d'ailleurs dans le cycle en fin de parcours. Vous avez des Airbus. Un de mes amis proches, c'est Jean-Luc Morfois, qui est le patron à Saint-Nazaire, qui est totalement là-dedans, à fond la caisse. Donc, pour l'entité de Saint-Nazaire, c'est pas pour tout Airbus, mais c'était quand même très fort. Il y a des groupes quand même du genre Gore, qui sont 10 000 personnes aujourd'hui, ils sont totalement là-dedans aussi. Patagonia, etc. Donc, on a quand même des exemples de grands groupes qui sont dans ces dynamiques-là. Seulement, et là, je pense que tu as raison, souvent, même ces grands groupes comme Gore sont en fait, sont pas détenus par des capitalistes extérieurs. Michelin, c'est pas un hasard non plus, c'est quand même encore l'une des plus grandes sociétés de France qui est, alors je sais pas quelle est leur structure de capital, mais ils sont pas, je pense, pas totalement sur les marchés financiers. Donc, le vrai enjeu, il est là. Il est effectivement dans la détention du capital, en fait. Et c'est vrai qu'on a vu, bon, Favi, c'est aussi un autre emblème qui est en train de se péter la figure, alors que ça fait 30 ans que Zobrist l'a mis en place. Simplement, le petit-fils du patron qui avait mis en place, enfin du fondateur qui avait mis en place Zobrist, ben, lui, il n'a rien compris à l'histoire et est en train de, vraiment, à la massue, comme casser tout ce qui... En voulant reprendre le pouvoir, en fait. Hein. En reprendre le pouvoir.
Mais au-delà de ça, c'est passer la flamme, en fait.
Oui, c'est passer la flamme.
Il y a quelque chose de fondamental qu'on observe aussi, c'est qu'il y a un esprit. Et le patron, il est là, il se dit, moi, j'ai envie d'insuffler un esprit. Il le partage. Et si cet esprit ne peut pas être repris, cette flamme ne peut pas être donnée dans son entièreté, ben ça se casse à la gueule.
C'est ce que Peter Koenig, pour ceux qui le connaissent, la personne source. Et c'est là, c'était une révolution, à mon avis, pas tellement que ça, parce qu'à mon avis, ça, Lao Tzu en parlait déjà, mais c'est une forme de leadership qui se met en retrait, mais qui n'est pas absente. Pas absente, qui est très présente, et c'est cette idée de la source.
Service, hein.
Ouais, exactement. Juste le petit point que je voulais faire, c'est, et je vous enverrai le lien, c'est Berkana Institute, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ce sont des gens qui réfléchissent vraiment à la transformation du système, et ils montrent deux courbes assez jolies comme ça. On les voit peut-être pas très bien, mais une courbe montante comme ceci, et une autre comme ça. Ils disent, ça, ce sont les entreprises, entre guillemets, avec un management classique actuel, qui sont montés un peu au sommet de leurs compétences et de leur façon de fonctionner, qui sont en train de se planter et donc qui descendent. Le seul problème, c'est qu'elles ne savent pas où aller. Parce que le modèle alternatif, entreprise libérée, Opale, etc., n'en est qu'à son début et est en train de se chercher encore. Et donc, en gros, ils ne savent pas trop parce qu'ils sentent qu'ils sont sur le Titanic qui est en train de couler, mais ils ont peur de sauter dans l'eau. Et donc, en gros... L'un des défis qu'on doit se donner, c'est pour des gens comme Stéphanie, Emmanuel ou moi, c'est de se dire, bon, on travaille beaucoup là, comment est-ce qu'on va faire pour, à un moment, procurer, une piste d'atterrissage pour les grands groupes qui sont en train de se casser la figure. Et les gens ne sont pas plus mauvais que les autres, mais simplement leur logique dysfonctionne méchamment. Mais ils ne savent pas où aller. Et ça, je crois qu'on a encore pas mal de boulot. Hein, parce qu'on le sait, c'est vraiment pas facile de mettre en œuvre ce type de dynamique. Il faut d'abord la transformation personnelle du top management, authentique. Et puis après, même avec ça, ça prend du temps, comme tu le dis. Hein, ça prend 10 ans, 15 ans, et on n'est pas encore au bout. Mais je trouve que c'est assez interpellant comme façon de représenter un des défis. De voir comment, parce que vraiment, moi, d'ailleurs, dans mon activité aujourd'hui, je dis, je ne travaille qu'avec ceux dont je sens qu'ils sont déjà en chemin. Oui, mais tous les autres, ça en fait un paquet. Hein.
Ça va.
Je pense que les autres, ils sont au niveau individuel.
ne comprend pas une société qui va décliner pour l'intégrer dans un nouveau modèle. Mais il y aura toujours des individus qui auront observé qu'il y a d'autres manières de faire,
oui,
et qui seront prêts, et eux vont entraîner d'autres.
Tout à fait.
Et donc je ne vois que par un petit miracle, en fait.
C'est vrai.
Ce que j'observe dans les transformations agiles des entreprises,
ouais,
quand elles sont faites dans les grosses boîtes du CAC 40, ça représente exactement ce qui a été décrit ici. C'est pas du tout inspiré, incarné par le management. Ils font des choses, mais elles sont totalement cosmétiques. Et donc, même si on essaye de l'intérieur de transformer, on n'y arrive pas vraiment, parce que quand on touche à leur pouvoir, tout bascule. Mais par ailleurs, certains managers observent et ont envie de tester, oui, et puis ils partent ailleurs,
exact,
et ils vont le faire ailleurs.
Exact.
Donc, tout n'est pas perdu, finalement.
Oui. Je travaille pour l'instant avec une société qui fait la transformation d'entreprise en tant que... Donc, eux, ils agissent non pas en tant qu'accompagnateurs, mais directement en tant que managers, mais ils le font dans l'esprit Lalou, Gates, etc., et ils me disent, bon, le drame, c'est qu'on fait une intervention, on redresse la boîte à la demande du conseil d'administration, et au bout d'un an ou deux ans, ça marche beaucoup mieux, et puis on passe la main, mais il arrive que le conseil d'administration, elle renomme quelqu'un avec l'ancien modèle, et je leur dis, mais alors c'est triste, enfin, tout est perdu, mais il dit non, parce que la boîte va se replanter. Mais entre-temps, il y a eu des tas de managers qui ont vu un autre type de management et ils quittent la boîte et ils vont essayer plus tard. Donc ça, c'est vrai que c'est...
Il y a un principe de contamination.
Il y a un principe de contamination.
On va faire d'un niveau de conscience qui se propage de nouveau.
Exactement. Exactement.
Il y a une possibilité, enfin, il me semble, c'est de créer des cellules avec des nouveaux business models dans les grandes entreprises et qui vont petit à petit jouer des rôles de base communicants.
Oui.
Donc incubateurs, oui, extrapreneurs ou des choses comme ça, qui peuvent être à ce moment-là une partie de réponse potentiellement, oui, à ta question, comment créer des zones d'atterrissage.
Moi, par rapport à la question des grandes entreprises, petites entreprises, je ne suis pas tout à fait certain, parce qu'il y a un espèce de principe de résultat qui compte. Et si on voit qu'une entreprise X ou Y obtient des résultats, même des actionnaires peuvent très bien décider. Je suis peut-être naïf, hein, mais.
Elle a été naïf.
Ah, je suis naïf.
Ouais. Bon. Excuse-moi, mais je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Si tu veux, là, ça rejoint peut-être alors ce que nous a dit François sur l'irrationalité.
Ouais.
Mais donc, dans plein de boîtes qui fonctionnent mieux grâce à un management alternatif, participatif, etc., malgré tout, l'essaimage est bloqué volontairement par d'autres qui ont gardé un pouvoir plus élevé, parce qu'ils ont peur, évidemment, de l'effet de contamination qui va les forcer à remettre en cause leur propre pouvoir.
C'est un peu ce que je dis.
Ouais,
c'est la guerre des pouvoirs dans les entreprises.
Donc là, malheureusement, ce n'est pas la rationalité économique qui va permettre la contamination. Ce qui va permettre la contamination, c'est les tripes des gens qui ont compris qu'il faut passer à autre chose. Bah,
Mais dans une grande entreprise, comment veux-tu mettre ces tripes en place?
Ah ouais,
si ce n'est pas top-down au départ. Est-ce que c'est sensible ou bien je suis aussi un naïf en croyant qu'on peut développer un atelier en impliquant l'administrateur délégué, son comité de direction, pour qu'il montre par un modèle que l'entreprise peut se libérer petit à petit?
Oui.
Est-ce que c'est naïf?
Non, mais c'est compatible avec ce qu'on a dit, au contraire. Je pense que c'est compatible dans le sens où ça part d'une volonté au départ du top management, sans quoi c'est très très difficile. Ou alors, tu arrives à un moment où justement tu ne peux pas aller plus loin et alors tu pars.
C'est un modèle socio-économique, on peut réutiliser l'approche de Simon Sinek avec le why,
oui,
mais en le plaçant de côté autonomie-liberté.
Oui.
Réfléchissez autrement. Votre marché vous choisit pour ce que vous savez faire et comment vous le faites. Pourquoi vous ne savez pas leur expliquer? Mais réfléchissez également à intégrer l'autonomie de la liberté dans votre pourquoi. Si votre personnel est hyper motivé à produire ce que vous demandez et qu'il y a une autonomie de leur part, le résultat sera meilleur. Les chiffres se verront par la suite. Le chiffre d'affaires, les bénéfices augmenteront, les marges seront meilleures. Parce qu'on pourra mieux défendre à ce moment-là le modèle organisationnel
nouveau de l'entreprise face à son marché. Et les concurrents sont évidemment mis sur le côté à ce moment-là, en travaillant le modèle concurrentiel, par la liberté et l'autonomie à l'intérieur.
Bon, j'ai envie de dire quelque chose.
Vas-y.
Très iconoclaste. Mais en vous écoutant, je pense. Actuellement, je travaille sur la. Ça fait une dizaine d'années sur la notion de démocratie. Et donc, on réfléchit au rapport entre les gouvernants et les gouvernés dans le cadre d'un État. Donc, quel est le rapport entre les citoyens et les gens qui gouvernent? Apparemment, ce n'est pas des rapports qui sont très, très harmonieux actuellement. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'il y a deux conceptions toujours de l'État et du rapport et des citoyens. Soit on considère que l'État, c'est détenu par une caste ou un groupe de professionnels qui savent ce qu'il faut faire et qui, top-down, essayent d'orienter, de guider la société. Soit on considère, et c'est le point de vue duquel je me place, qu'en fait, il n'y a pas de séparation entre l'État et les citoyens. C'est juste quelque chose qui a été, d'une certaine manière, inventé ou mis en place par des gens qui essayent dans cette idée qu'il y a une position de domination et qu'on peut dominer une société. Ça existe, hein. Il n'y a aucun doute que Donald Trump, il a quand même une position particulière qui lui permet de signer des décrets qu'un citoyen ordinaire n'a pas. Donc tout ça existe et on peut voir des gens qui rêvent de devenir Donald Trump avec un gros stylo et signer des choses comme ça devant les caméras du monde entier. Mais quand même, il y a une vision plus optimiste qui consiste à dire qu'il n'est pas vrai que les gens qui dirigent un État sont détachés des citoyens. Jamais, à aucune condition. Et que ce qu'ils font, à des degrés divers, n'est que le reflet de l'état de leur société. Et par exemple, si vous avez des gens qui ne supportent pas le système hiérarchique, des jeunes générations, vous aurez certainement beaucoup de mal dans les entreprises à les mater. C'est aussi simple que ça. Donc un top management peut très bien, si on n'arrive pas du tout, ça c'est la première chose, hein, si on n'a pas une conception très très hiérarchisée en disant tout vient du sommet, et que ce qui se passe en dessous, ben, ça va suivre naturellement. Si le management n'est pas bon, ben, voilà, ça n'ira pas. On oublie l'autre versant, qui est que, un, et peut-être ça va être important, les consommateurs peuvent faire couler une boîte dont ils considèrent que les règles de fonctionnement ne sont pas bonnes. Et donc là, on peut faire tout ce qu'on veut, mettre les chiffres et de la quantification des ordinateurs. Si les gens n'achètent pas des Nike, c'est fini. Alors, ça n'arrive pas souvent, hein, mais il ne faut pas non plus, là, toutes les avances. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Est-ce que les campagnes de boycott se développant, l'arme politique du boycott prenant de l'ampleur, est-ce que ça peut... On n'en sait rien. C'est-à-dire que ça peut venir d'ailleurs, le fait que le top management change. Parce que si on n'arrive pas à écouler des produits, ben, la rentabilité ou le profit va s'effondrer. Donc, il y a les consommateurs, il y a les gens qu'on fait travailler. S'ils ne sont pas d'accord avec des systèmes hiérarchiques, ça va être compliqué aussi d'imposer. Donc, si on voit l'entreprise comme dans le cadre de la société et pas simplement dans un système hiérarchique, alors il y a beaucoup d'autres forces qui rentrent à l'intérieur pour le changement, mais qu'on ne voit pas.
C'est sûr. Oui, oui.
Donc, quand je dis, c'est pour ramener sur la démocratie, en disant que ce qui se passe actuellement, c'est ça, c'est l'auto-organisation des citoyens contre les structures d'État. Et c'est quelque chose qu'on voit, je pense que vous l'observez tous, comment les citoyens cherchent des moyens de peser de façon plus importante et plus réussie sur l'organisation du gouvernement.
Une sorte de libération au niveau de l'État.
Voilà, c'est ça. C'est un État, c'est quand même très compliqué, à part des tyrannies absolues, ou Caligula, il est très très difficile qu'on ait un tyran qui règne pendant très très longtemps sur une population qui est rétive. C'est assez compliqué. Donc ça va contre la question de la soumission et tout ça, mais historiquement, bon, ça dure un certain temps, c'est vrai, par la peur, on peut tuer des populations, on peut comme disait Brecht, on peut changer le peuple, hein, d'une certaine manière. La partie rétive du peuple... Écoutez, la partie rétive du peuple, quand on la liquide physiquement, ben, il n'y a plus qu'une partie qui va suivre ce qu'on lui dit. Hein. Bon, c'est mécanique, hein. C'est pas très gentil ce que je dis, mais c'est mécanique. Non, mais ce que je veux dire, c'est surtout ça, c'est de comprendre que ni l'État ni les entreprises ne sont à part de la société, oui. Et que la société, elle bouge, et que nous autres sociologues, voilà, on essaie de comprendre ces mouvements-là, et qu'on peut vous informer en disant c'est des mouvements très forts et donc vous pouvez ne pas les prendre en considération, parce que c'est vrai que tant que les gens vont demander du 15 ou du 18 ou du 15, ceux-là ils vont continuer à exister. La question, on peut se dire jusqu'à quand ça va exister, ça. C'est comme je vous entendais tout à l'heure. Donc le truc le plus utopique que je peux dire ce soir, c'est que si vous supprimiez le mot business model de votre langage, peut-être on avancerait un peu vers l'humanisation des entreprises et la démocratie dans les entreprises. Parce que tant qu'on défend un business model, eh ben, on cherche du profit. Ouais. Et c'est compliqué de ne pas dire « oui, mais ça ne va pas, il faut que, quand même qu'on vende quelque chose ». Donc le profit est quand même la chose qui anime. Et bon, alors il y a des tendances aussi qui disent « laissons tomber le profit, pensons aux êtres humains hein, ». Comme... Oui. Ça, c'est peut-être très, très utopique.
Non, mais je vois l'heure qui passe, donc on va... Ce que tu dis fait écho à un autre séminaire qu'on a eu il y a un an et demi ou deux ans, avec Isabelle Ferreras, que tu connais probablement. Oh. Et pour ceux qui étaient là, c'était aussi avec Jean-François Zobrist. Et Ferreras, sa thèse fondamentale, elle rejoint ce que tu dis, c'est que le mouvement de démocratisation au sein des entreprises... Et le pendant ou la conséquence naturelle de la démocratisation dans la société dans son ensemble. Donc c'est vrai que là il y a une force très importante. En même temps, malheureusement, on voit aussi que les situations de crise ou de tension telles qu'on les connaît dans nos sociétés appellent entre guillemets des demandes même de l'ensemble de la population de figures autoritaires pour rassurer. Je ne sais pas, là, tu as sûrement des choses à dire.
Certainement, mais je me tais. À nouveau, moi, je trouve. Non, parce qu'il y a un truc qui m'a traversé la tête et qui est de faire de la publicité pour un bouquin qu'on vient d'écrire. Mais vas-y,
fais-le, parce que avec Sandra Léogier, je vous ai entendu sur France Culture.
C'est même public, alors. C'est vrai que le débat dans lequel on essaye de peser, c'est un débat sur ce qu'on appelle l'antidémocratie, c'est-à-dire, en fait, cette idée que les gens n'ont pas de compétences, n'ont pas de capacités. Les gens ordinaires n'ont pas de capacités. Alors, nous, on s'y intéresse en termes politiques, en montrant ce que je viens de dire juste un peu auparavant, que si on déplace un peu la focale, qu'on ne focalise pas sur les partis politiques, sur les magouilles, sur les rapports de force, sur toutes sortes de choses qui existent et sur lesquelles les médias sont focalisés à 2000%, sans regarder les mouvements de politisation interne à la société, donc comment les gens s'auto-organisent, comment ils pèsent, comment ils modifient, comment ils font sombrer des partis politiques, comment ils font émerger des mouvements, et c'est des choses qu'on observe et qui vont assez vite, en fait, actuellement, me semble-t-il. Donc là, il y a encore une fois, tenir compte de ces mouvements-là, c'est une question de tenir les deux choses à la fois. Il est vrai, et on peut se poser aussi la question de savoir si devant ces mouvements, il n'y a pas une instrumentalisation des peurs qui servirait à maintenir des formes hiérarchiques qui échappent aux gens qui les tenaient avant. Je ne veux pas rentrer dans ça, c'est pas du complotisme, mais c'est vrai que c'est compliqué de voir quand quelque chose vous échappe. Vous étiez, je sais pas, il faut regarder le cas de la France aujourd'hui, qui est assez intéressant pour ça. Simplement où les cadres politiques ont complètement volé en éclats. Et il faut voir les gens qui sont comme dans une basse-cour, les gens, le personnel politique. Donc le personnel politique, par ça, on entend aussi les experts, les conseillers, les journalistes, les médias et l'ensemble des gens qui participent à la gestion d'un État. Ils sont un peu, ils sont comme des canards sans tête, ils combattent dans tous les sens sans savoir où ils vont. Moi, je trouve que c'est une bonne situation, c'est une situation d'expérimentation où il faut qu'on trouve quelque chose. C'est pas un crime, c'est pas un désastre, c'est rien. C'est juste, en tant que sociologue, on observe comment ils font pour recatégoriser les choses, pour retrouver, et ça prend du temps, c'est sûr et certain. Là, il y a une chose qui nous manque beaucoup, qui manque à certains, c'est de croire que les choses se font du jour au lendemain. C'est jamais vrai. C'est toujours des processus qui prennent une vingtaine d'années, on n'a jamais le temps de voir ça venir. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des forces sous-jacentes qui travaillent et qu'il faut les regarder. Je ne sais pas ce qu'elles vont donner. Elles peuvent être écrasées, elles peuvent être... Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut les voir à l'œuvre, les regarder et les mettre en rapport avec le cadre plus général, qui est soit la direction des entreprises, soit l'organisation générale du capitalisme, ce qui est aussi... Une autre question, on peut se poser, enfin, là aussi c'est très très utopique, vous partez d'un principe où les grandes multinationales qui dominent le monde aujourd'hui sont là pour toujours. C'est possible, mais est-ce que la Russie n'a pas sombré un jour ou l'autre ? Donc, qu'est-ce qui nous assure que ces grands corps-là ne vont pas s'effondrer comme des colosses d'argile ? On n'en sait rien. Au fond, ils auraient pu tous sombrer à la crise de 2008. C'est pas parce qu'on a payé pour les sauver qu'elles sont plus vaillantes. Hein. Donc à la prochaine crise, peut-être qu'on voudra pas payer.
Ouais. C'est aussi ce qu'exprime cette.
C'est exactement ça.
Exactement. Mais pour l'instant, on s'accroche parce que. Ouais. C'est pas vers quoi on va dans quoi on va tomber.
D'ailleurs, pour reprendre le cas, mais je pense pour beaucoup de choses, hein, que ce soit le cas de la Grèce avec l'Eurogroupe, que ce soit le cas de la France actuellement, où les entreprises dont vous parlez, on est dans ce moment, effectivement, où les gens continuent à faire quelque chose, parce que, et là, ils sont vraiment très conformistes, parce qu'ils ne savent strictement pas quoi faire d'autre. En fait. Ils savent bien que ce n'est pas bien, qu'ils vont dans le mur, mais on y va, parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Et ça, c'est le vrai moment dans lequel on est, où il y a une chance de proposer des alternatives. Ouais.
Bon ben sur ces belles paroles, je vous propose qu'on en reste là, malheureusement. Mais j'aurais aimé continuer parce que j'ai l'impression qu'on a fait qu'effleurer un peu la problématique. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu aller plus loin, mais c'est comme ça. Il y aura d'autres séminaires et on reprendra la discussion. Merci en tout cas de votre attention et bonne soirée.